Il y a quelqu'un qui
regarde. Oui, il y en a plein. Oui, il y a plus de manche. Ah bon.
Voilà. Ce soir, nous avons la joie de recevoir le rabbin Philippe Haddad. Donc, vous êtes rabbin à la paroisse, à la synagogue, pardon, de la Rue Copernic.
Oui, oui. Mais ça arrive qu'on m'appelle père, donc ne vous
inquiétez pas. Voilà. Donc, la synagogue de la Rue Copernic, la tendance libérale. Vous avez reçu en 2020 le prix de l'amitié judéo-chrétienne de France. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur la lecture juive des enseignements de Jésus. Ce soir, vous venez nous présenter l'approche par le judaïsme libéral de la révélation de Dieu.
Voilà. Merci de cet accueil. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, dans ce cycle, je suis la voix juive. Donc, un peu la racine. Voilà. Et en effet, je suis rabbin à la synagogue de la rue Copernic, dans le 16e arrondissement, et qui est une synagogue de type libéral ou progressiste. C'est-à-dire qu'au sein du judaïsme, il y a... je vais me mettre debout comme ça, je vois tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'estrade. Oui, au sein du judaïsme contemporain, il y a différentes expressions de la foi et de la pratique. C'est pas nouveau, parce que même à l'époque de Jésus, quand même on lit dans les évangiles, mais aussi Flavius Joseph et ceux qui ont écrit de cette période, eh bien, ont montré que, en fait, disons, le peuple juif avait différentes expressions de sa foi. On voit avec les Sadducéens en particulier qu'ils avaient une certaine lecture de la Bible, c'est-à-dire plutôt littérale, alors que les pharisiens ou les rabbis avaient des modes d'interprétation. Mais aussi chez les Samaritains, aussi les Samaritains, par exemple, n'avaient pour Bible que la Torah. Vous voyez, donc les prophètes, ça ne faisait pas partie de leur canon. Ou bien chez les Esséniens, ils avaient encore des livres en plus, etc. Donc l'idée que au sein du peuple d'Israël, il y ait différentes voix, E et X aussi, eh bien, c'est pas un phénomène nouveau. Mais disons que depuis quand même la Révolution française, bon, il y a eu le siècle des Lumières, comme on dit, et cette émancipation des Juifs, qui a commencé d'ailleurs en France, c'est Napoléon, en fait, qui a fondé ce qu'on appelle le consistoire, qui existe encore aujourd'hui, le consistoire israélite de France, avec un grand rabbin de France. Il n'y avait pas de grand rabbin de France avant Napoléon. Et donc, ça a créé aussi un mouvement de lumière, qu'on appelle en hébreu la Haskalah, c'est des penseurs, si vous voulez, des lumières, et qui a ouvert, en quelque sorte, l'expression religieuse, dans différentes mouvances. Donc vous avez des mouvances de stricte observance, même à l'intérieur il y a différents courants, et aussi des tendances consistoires, c'est la majorité des communautés juives en France aujourd'hui, depuis justement 1808, c'était la date du consistoire. Et puis vous avez des tendances plus libérales qui se sont développées, ou progressistes. Et même à l'intérieur, il y a différentes tendances. Il y a ce qu'on appelle libéral, reform, conservative, massortime, moderne orthodoxe. Donc vous voyez, c'est aussi riche que quand on parle du christianisme, et quand on rentre à l'intérieur, on voit qu'il y a beaucoup de mouvances, etc. Eh bien, c'est un peu le même phénomène. C'est à la fois un phénomène religieux et un phénomène sociologique. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'un groupe ne peut pas toujours rester homogène, il y a toujours des expressions différentes, et donc ça donne différentes manières d'exprimer la foi. Donc, par un cheminement spirituel, personnel, intellectuel, aujourd'hui je suis rabbin dans une communauté libérale. Alors, pour donner quelques aspects, pour bien comprendre le judaïsme libéral, d'abord c'est le statut de la femme, hein, dans le judaïsme libéral, c'est-à-dire que dans les synagogues de type orthodoxe, les hommes et les femmes sont séparés pendant les offices, en général ils sont à l'étage, si vous allez visiter des synagogues, les femmes sont à l'étage, et tandis que dans le judaïsme libéral, les hommes et les femmes ont un statut paritaire. En plus, dans l'association dans laquelle je me trouve, qui s'appelle Judaïsme en mouvement, qui regroupe plusieurs communautés à Paris, mais aussi en France, à Marseille, à Montpellier, à Lyon, à Strasbourg et à Bordeaux, il y a aussi des femmes rabbins. Peut-être que vous vous connaissez, vous avez vu Delphine Orvillère, par exemple, qui est assez connue, qui a écrit quelques livres qui ont bien marché. Voilà, donc ça c'est un premier aspect. Donc le statut homme-femme, on revient un petit peu à une sorte fondamentale du premier chapitre de la Genèse, quand il dit que Dieu créa l'homme, le Adam, à son image, Betsalmo, et Zaharun Keva Baraotam, et masculin et féminin, il les créa. Donc on vient, en quelque sorte, on s'appuie davantage sur ce premier chapitre, plutôt que le deuxième, où on dit que l'homme d'abord était seul, et puis il n'est pas bon que l'homme soit seul, et ensuite la femme. Bon, ça c'est le premier point. Et deuxième point, si c'est la manière de pratiquer. C'est-à-dire que le judaïsme libéral, depuis le XVIIIe siècle, XIXe siècle, a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi sur la pratique religieuse. Et donc, la conclusion, c'est qu'il fallait une adaptation aussi des rituels en fonction de l'évolution de la technologie et aussi des connaissances historiques et développement sociologique. Tout n'est pas bon dans le développement sociologique aussi et de la société, mais quand même, il y a des avancées technologiques, par exemple, des meilleures compréhensions de la personnalité. Je vous donne un exemple concret, c'est-à-dire que, par exemple, dans la tradition, le cas du suicidé, bon, c'est des cas vraiment extrêmes, mais le cas du suicidé, c'était vraiment considéré comme une faute majeure, parce que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la reprend. Bon, les questions qui se posent de fin de vie, etc., vous savez que c'est des... Sur le point de vue, on a des convergences. Mais aujourd'hui, le regard, si vous voulez, sur le suicidé est davantage un regard, disons, bienveillant, parce qu'on a les connaissances psychologiques. On dit finalement, si quelqu'un s'est suicidé, c'est pas en état de conscience, c'est qu'il était malade, c'est un appel. Donc il y a un nouveau regard, si vous voulez. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne le judaïsme libéral. On est moins strict sur l'observance, par exemple, du Shabbat ou de la cacheroute, enfin des règles alimentaires, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une abolition du Shabbat ou des règles alimentaires. Il y a des adaptations, si vous voulez. Donc ce qui fait qu'on touche aussi un public. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le judaïsme libéral, toutes tendances confondues, est majoritaire. Hein. Oui, d'ailleurs, je crois même qu'il y a une majorité de femmes rabbins aux États-Unis, donc c'est un mouvement très important, et beaucoup de femmes qui se sentent appelées aussi à diriger des communautés. Et en France, bon, ben, le judaïsme libéral se développe aussi, et ça répond. Voilà, ça répond à des demandes, à des... Il y a aussi des questions, des fois, de... Bon, les mariages mixtes, enfin, ou exogamiques, bon, ça, c'est vraiment des situations assez fréquentes. À l'université ou au travail, on rencontre son conjoint, sa conjointe. Bon, il se trouve que l'un est juif ou juive, et puis l'autre ne l'est pas. Et après, bon, ça peut arriver que, soit dans un sens, parce que la plupart des mariages ou des unions, c'est juif, identité juive, identité chrétienne. Ça existe aussi juive et musulmane, mais moindre. Mais dans notre situation, c'est en général le conjoint, la conjointe est chrétienne, voilà, et juive. Et alors, des fois, il y a des choix. Soit ça va dans le sens du christianisme, soit ça va dans le sens du judaïsme, soit ça va des fois, on essaie de trouver un équilibre. Voilà, aussi, ça peut arriver. J'ai fait quelques fois des cérémonies avec des prêtres. Voilà, c'est-à-dire, on essaie de maintenir les deux mémoires. Voilà, et après, les enfants, ben, ils seront éduqués un peu. Et des fois, ça penche plutôt d'un côté, plutôt de l'autre. Ça, c'est vraiment des histoires de famille personnelle. Donc voilà, si vous voulez, ce sont des questions d'actualité, hein, dont on tient compte. Et donc, il y a une forme d'évolution, si vous voulez, des rituels, mais sur les fondamentaux dont je vais parler aujourd'hui, par exemple la notion de révélation, bon, quand même une approche assez traditionnelle. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Donc, voilà, je vais peut-être parler, comme on l'avait dit, 40-45 minutes. J'ai déjà pris 5 minutes, donc je vais prendre 40 minutes. Et puis après, si vous voulez, on peut avoir un échange, voilà, sur cette question, bien sur le judaïsme en général, puisque vous avez un rabbin sous la main. Voilà. Donc, voilà. Alors, bon, la question de la révélation, on voit dans la Bible que, d'abord, le Dieu biblique, c'est un Dieu qui parle, et c'est un Dieu relationnel. Ça, c'est la grande idée. Hein. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui appelle, hein, qui nomme. D'ailleurs, dès les premiers chapitres, hein, Dieu crée la lumière, donc c'est un Dieu qui parle. C'est pas une pensée qui se pense, comme chez Aristote, ou une pensée qui se concrétise. Et le texte ne dit pas « Dieu pensa la lumière et la lumière fut », mais Dieu dit, hein, que la lumière soit, « yehi or », qui est la lumière, « vaihi or », et donc la parole de Dieu devient cette lumière. Hein, voilà. Et donc, déjà, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui nomme, puisqu'après, Dieu appela la lumière jour et l'obscurité nuit. Et aussi, l'homme va ressembler à Dieu dans la mesure où lui aussi va nommer. Comme on voit dans le chapitre 2, que l'homme est seul, donc Dieu va créer les animaux. Dans le premier chapitre, les animaux sont créés avant l'homme. Dans le deuxième chapitre, c'est l'homme qui crée avant les animaux. Et on voit que l'homme nomme, et il a donné des noms aux animaux, et comme il a donné des noms, ainsi est leur nom. Donc on voit que la qualité de parole, la capacité de parole, de dire, d'exprimer des mots, c'est divin et ça devient humain comme une grâce de Dieu qui est donnée à l'humain de pouvoir parler. Je vais vous donner une lecture juive, c'est-à-dire que dans le deuxième chapitre, on dit que Dieu a pris Afar min Adama, plutôt que de traduire la poussière, le mot Afar, ça veut dire l'humus plutôt, l'humus, ça veut dire une partie du terreau, et il façonne donc cet être d'argile, de Afar, de terreau, et Vaipar Be'apav Nishmatraim, il insuffle dans ses narines un souffle de vie, Neshama, la respiration divine, qu'il a littéralement époumonné, Vaipar, il a pousser le souffle, et l'homme est devenu Nefesh Raya. Nefesh Raya, on traduit âme vivante, ou je n'ai pas vu exactement la traduction, traditionnelle de Rabbina ou de la Tob ou de Jérusalem, et le Adam, qui vient de Adama, hein, le Adam qui vient de Adama, la terre, en fait, vous voyez, et bien devenu Nefesh Raya. Nefesh Raya, une âme. C'est-à-dire une âme dans le sens d'une respiration. Hein. Le vivant se traduit par le fait de respirer, c'est-à-dire d'échanger avec le milieu ambiant. C'est ce qui caractérise le vivant, c'est l'échange avec le milieu ambiant. Et on pourrait dire, c'est vrai aussi pour les animaux, bien sûr, les plantes. Dès qu'il y a du vivant, il y a un échange. Et alors, un célèbre rabbin français, d'ailleurs, c'est Rashi, Rabbi Shlomo Ben Isaac, quand on prend les initiales, ça fait Rashi, qui vivait à Troyes en Champagne, 1040-1105, eh bien, pose une question, qui est une question de la traduction, mais il résume un petit peu dans son commentaire. Il dit, mais finalement, les animaux aussi, quand on connaît le texte avant la création de l'homme, aussi les animaux sont appelés Nefesh Raya. Parce que Dieu dit que les eaux produisent Nefesh Raya, dans le premier chapitre, que les eaux produisent des souffles vivants. Et puis les animaux aussi, qui sont créés avant l'homme ou après l'homme, ça dépend dans le premier ou deuxième chapitre, sont appelés Nefesh Raya. Donc il dit, mais finalement, alors, tous les vivants sont appelés Nefesh Raya. Il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Donc l'idée qui serait sous-entendue ici, ben alors finalement, l'homme c'est un animal parmi les animaux. Et la tradition répond, mais attention, l'homme, il a la capacité de parler. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de communiquer, comme on pourrait dire, des animaux qui peuvent communiquer, pour indiquer où se trouve le pollen, par exemple, on pourrait dire même chez les abeilles, où voilà, on a trouvé des formes de communication, mais l'homme exprime sa pensée, il dit « je », enfin, etc., c'est vraiment une spécificité. Donc, on voit tout de suite la notion de la parole. Donc, Dieu s'exprime, hein, il dit, c'est un Dieu donc, qui parle, et parler, ça veut dire donc communiquer, hein, et parce que si les choses sont nommées, c'est qu'elles vont être appelées. Hein, parce que pourquoi finalement appeler la lumière jour et l'obscurité nuit, si la lumière c'est la lumière et l'obscurité c'est l'obscurité, ben, ils ont déjà des noms. Et pourquoi ajouter des noms aux noms? Voilà. Et donc l'idée c'est que nommer c'est aussi être appelé. Voilà, c'est le shem. Le shem c'est vraiment un terme important, ça veut dire le nom en hébreu, N-O-M. Hein, et d'ailleurs c'est un des fils, le premier fils de Noé, Shem, hein, Shem. Le premier nommé après le déluge, donc on pourrait dire le premier fils engendré après la catastrophe, en considérant que Noé c'est comme un nouvel Adam, eh bien, le premier s'appelle Nom. Donc, ils ont cherché un nom, et ils ont dit comment on va l'appeler, on va l'appeler non. Voilà, pas trop casser la tête. Non, voilà, Shem. Mais en fait, ça va donner la lignée des Shémites. Donc, les Shémites, les Sémites, voilà, avec la transformation du shin, du che, en S. Et donc, les Shémites, en fait, c'est ceux qui ont la tradition du nom. Vous voyez ? À l'image de ce Dieu, le Dieu, des fois on dit Ha Elohim, des fois on dit Elohim, Dieu, mais des fois on met l'article devant Ha Elohim, pour dire attention, c'est bien la divinité, le créateur, et non pas telle ou telle divinité, parce que les divinités aussi, les divinités sont appelées Elohim aussi dans la Bible. Ils sont appelés Elohim Acherim, les dieux autres, c'est-à-dire ceux qui sont appelés par l'homme divinité. Et donc, il y a une sorte de concurrence, on voit même dans le décalogue, dans les paroles, donc vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Non, non, c'est Dieu que vous appelez Dieu, c'est vous qui les nommez Dieu. Mais moi qui suis le Dieu qui vous ai créé à mon image, et non pas vous qui créez Dieu à votre image, alors je vous demande qu'il y ait une relation avec moi. Et non seulement ce Dieu y parle, mais en plus, c'est un Dieu qui a un nom. On voit ça dans le chapitre 3 de l'Exode. Donc Moshé, bon, qui est sauvé, voilà, c'est le premier enfant caché de l'histoire. On a parlé des enfants cachés même pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que c'est un enfant caché. Et on retrouvera ça plus tard aussi avec Jésus d'ailleurs. C'est-à-dire ces enfants qui portent le message de Dieu et qui sont en danger parce qu'ils sont fragiles à l'origine et ils peuvent disparaître. Donc il faut sauver ce petit enfant, parce qu'il porte en lui l'espérance du monde, l'espérance de Dieu. Et donc il est caché, et puis voilà, les hommes sont dans la violence, et les femmes sont dans l'espérance. Hein, parce qu'il est, en fait, il est sauvé par trois femmes. C'est sa maman, qui le cache pendant 3 mois, après sa sœur, qui le suit dans le Nil, on dit qu'elle prend des risques, d'après la tradition, voilà, parce qu'il y avait des crocodiles, il y a des courants, etc. Et puis la fille de Pharaon, la propre fille du Pharaon, qui avait dit, il faut noyer, imaginez, je sais pas moi, la fille d'Hitler, qui dit, non, mais il faut sauver les Juifs. Alors, vous voyez, c'est un peu la liste de Schindler, si vous voulez, voilà, c'est... Je pense que d'abord il veut faire du business avec les nazis, puis il dit mais il faut sauver les juifs. Voilà. Et donc c'est la propre fille de Pharaon qui sauve. Et Moïse, ce Moïse qui est présenté dans la Bible, eh bien c'est celui qui se soucie en fait de la dignité de l'homme. Il s'offre à lui, c'est comme une épreuve en fait. On voit que les grands personnages de la Bible, ça aussi c'est une caractéristique de la révélation biblique. Hein, c'est que les justes, terme générique, les justes, pardon, dans les livres des psaumes, le héros, c'est le juste, le tzaddik en hébreu, tzaddik. Hein, voilà, heureux l'homme qui ne suit pas le chemin des méchants, au début du livre des psaumes, hein, mais qui médite la parole de Dieu, la Torah, l'enseignement de Dieu, il est comme un arbre fruitier planté plein de cours d'eau. Alors c'est le tzaddik. C'est le juste, ou les tzadikim au pluriel. Bien sûr, il y a aussi au féminin, tzadekhet, tzadekot, ça veut dire les femmes justes aussi. D'ailleurs, on les voit ici, la maman de Moïse, la sœur de Moïse, la fille de Pharaon. Et donc, il a deux possibilités. Ou bien il pense à son avancement personnel et devenir le futur Pharaon de la grande civilisation. Hein. Voilà, toujours les... Ah, voilà les... Voilà la deuxième mi-temps qui arrive. Voilà. Bienvenue. Ou bien il pense à sa promotion personnelle, voilà, et s'est levé dans la hiérarchie, et devient le pharaon, le futur pharaon peut-être, ou en tout cas appelé à de hautes fonctions au sein de cette toute puissante Égypte. Et en fait, le texte de la Torah, hein, au chapitre 2 de l'Exode, nous présente au contraire un personnage qui va se soucier de la fraternité. Et on dit qu'il descend vers ses frères. Et les commentateurs posent la question, mais qui c'est ses frères ? Alors bien sûr, si on le sens premier, on va dire, c'est les Hébreux. Beaucoup de commentateurs disent non, ses frères, en fait, c'est ses frères de sang et c'est ses frères adoptifs. Parce que Moïse, il a une double culture. Il est à la fois Ish Mitzri, il est un homme hébreu. D'ailleurs, quand les filles de Yitro, plus tard, bon, il va s'enfuir, etc., et puis il va sauver des jeunes filles. Et puis les jeunes filles, les filles de ce Jétro, Yitro en hébreu, qui est le prêtre de Madian, Madian, c'est un peu c'est à l'est de l'Égypte. Et dit ma Ishmitzri itzilanu miyadaroim. C'est un homme hébreu qui nous a un homme égyptien qui nous a sauvé, voilà, d'Égypte. Alors, c'est un Égyptien et en même temps, c'est un Hébreu. Donc, en fait, il a la double culture. Donc, il est travaillé par la fraternité au niveau universel, on pourrait dire, avec la civilisation égyptienne et puis cet embryon de peuple hébreu, des Sémites. Hein, et donc, il a vécu, voilà. Puis alors, à ce moment-là, Moïse, bon, ben, il prend la défense d'un Hébreu et puis on dit qu'il frappe un Égyptien. Est-ce qu'il avait l'intention de tuer ou pas? Il le frappe et il meurt. Donc, il essaye de le défendre et il le tue, il s'enfuit. Hein, puis bon, là, il va se retrouver chez ce Yitro qui est un idolâtre, mais qui a l'hospitalité abrahamique. En même temps, le texte de la révélation du texte de la Torah nous dit, attention, l'hospitalité, elle est universelle. Elle ne se trouve pas seulement chez Abraham, chez les Hébreux, mais voilà, on peut avoir un païen, enfin un idolâtre, qui est présenté au début, Cohen, Midian, Cohen, bon, si je vous dis Cohen aujourd'hui, vous allez dire, c'est un monsieur Cohen, c'est un juif, mais le Cohen en hébreu, ça veut dire un prêtre. Hein, on peut être Cohen Mitzrayim, on peut être un prêtre d'Égypte, on peut être Cohen Midian, le prêtre de Madian, on peut être de n'importe quelle culture. Donc, mais par la suite, bon, le mot Cohen ensuite est devenu un mot juif parce que bon, il y a que les traditions des descendants de Aaron qui s'appellent Cohen ou Kaen ou Kon-Kan, etc. Et donc il va être accueilli. Et puis le fameux chapitre 3 où il a cette rencontre avec Dieu parce qu'il n'a pas encore rencontré Dieu. Il est travaillé par la justice, hein, il ne supporte pas l'injustice, il ne supporte pas l'indignité des hommes, il ne supporte pas la violence. Donc il est aussi dans un jeu de violence, comme une contre-violence, pour essayer de faire cesser cette violence. Mais lui-même, il rentre dans ce jeu de la violence, puisque lui aussi, il a tué un Égyptien. Et puis, alors, cette rencontre avec Dieu, en fait, qui se présente comme un feu non dévorant, donc c'est la rencontre, ça c'est vraiment, on pourrait dire, c'est la rencontre de la révélation même. La révélation, c'est la puissance de Dieu qui retient sa puissance. C'est-à-dire que la mémoire de Moïse, c'est la mémoire la plus traditionnelle qu'on a d'une définition de la puissance, c'est-à-dire la puissance, c'est ce qui exerce une force contre une autre. Et c'est la force la plus puissante, si F et F' sont en concurrence, et que F est supérieur à F', voilà, c'est F qui va repousser F'. Voilà, donc, il pense que c'est un jeu physique ou sociologique, en fait. C'est le vainqueur qui l'emporte sur le plus faible. Voilà, ben, les Égyptiens, c'est l'armée, c'est la puissance, etc. Les Hébreux, ce sont des étrangers, ils sont devenus des esclaves. Et voilà qu'il découvre. Donc, la révélation, c'est le Dieu puissant qui retient sa puissance. Parce que le buisson ne brûle pas. Et c'est là qu'il y a ce dialogue, assez long d'ailleurs, parce que si vous connaissez la Bible est assez avare de mots, et vraiment ça va à l'essentiel. Et là, il y a un discours très très long, où Dieu se présente, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Voilà, donc voilà, la révélation, c'est toujours un Dieu d'abord qui se présente comme un Dieu d'une mémoire. Voilà, c'est-à-dire les fondateurs, Abraham, Isaac, Jacob, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob, Rachel, Léa, voilà, c'est-à-dire la mémoire d'un peuple, voilà, le peuple des Hébreux, hein, c'est-à-dire qu'Abraham va naître ou apparaît après l'épisode de Babel, donc chapitre 11, c'est la tour de Babel, et chapitre 12, c'est « Va pour toi, va vers le pays que je t'indiquerai ». Donc, si on fait le décompte des enfants de Noé, à travers Shem, Ham et Yafet, donc le chapitre 10, vous faites le décompte des descendants, vous avez trouvé 70. C'est un chiffre symbolique qu'on trouve aussi bien dans la Torah, dans le Talmud, dans le Midrash, dans les évangiles aussi, 70. Voilà, c'est des chiffres vraiment qui vont revenir, comme le chiffre 3, le chiffre 7, le chiffre 12, 13, enfin bon, c'est récurrent, et c'est normal que dans les évangiles, on retrouve parce que c'est la même racine. Et à un moment donné, Moïse dit à Dieu, mais quel est ton nom ? Si je vais devant les Hébreux, ils vont me demander quel est ton nom. Donc ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'en général, les divinités, dans d'autres traditions, que ce soit les traditions antérieures à Israël, les épopées de Gilgamesh ou autres, ou même dans les traditions grecques ou romaines, les dieux ont des noms, mais on se demande qui soit ils se donnent des noms à eux-mêmes, mais personne ne demande à la divinité comment tu t'appelles. Bon, c'est le Baal, c'est le Marduk, c'est Osiris, c'est Isis. Et là, il y a le questionnement, je vais devant les Hébreux, quel est ton nom ? Donc, Dieu, la divinité, va décliner son nom. Voilà, un nom que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré, Eyé Asher Eyé. Bon, on n'utilise jamais, même dans la prière juive, on ne dit pas Eyé Asher Eyé. Il y a beaucoup de commentaires, aussi bien dans les exégètes juifs et chrétiens, sur le Eyé Asher Eyé. On pourrait traduire je serai qui je serai, c'est un futur, mais c'est le verbet quand même. C'est-à-dire que Dieu a un nom qui renvoie à l'être. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'être. Voilà, tout. Tout est être, tout ce qui est... Pourquoi il y a de l'être ? Ben parce qu'il y a un débordement de l'être, un débordement d'amour, un débordement de miséricorde, voilà, et donc il y a de l'être, hors de l'être, et en même temps, on est dans l'être, voilà, et il demande, ben, quel est ton nom ? Donc, c'est un Dieu qui parle, et d'ailleurs, c'est un Dieu qui appelle aussi, donc j'ai dit, il nomme la lumière, il nomme l'obscurité, mais aussi il appelle les personnages. Hein ? Alors, très souvent, on voit, par exemple, Moshe, Moshe, voilà, Moïse, Moïse, voilà. Mais... Il faut se rappeler que déjà dans la Genèse, quand Dieu s'adresse à Abraham, dans le chapitre 22, il lui dit « Abraham, Abraham !» Et Abraham dit « Me voici, me voici voilà. !» C'est-à-dire, c'est des petits mots comme ça, mais qui sont très 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 importants dans l'écriture de la Torah, ou de la Bible même en général. On retrouve ça par exemple dans Isaïe aussi, « qui vais-je envoyer ?» Et puis Isaïe dit « Ineni, me voici !» Voilà, donc il y a donc cette relation nominative d'appel, et ça veut dire que Dieu appelle l'homme, hein, et que l'homme peut appeler Dieu. Donc la révélation, c'est entendu d'abord comme une relation. Hein. Révélation, c'est une relation de reconnaissance de l'altérité. C'est-à-dire Dieu a un nom, et l'homme aussi a un nom. Et la tradition va dire, bien que pour tous les prophètes, il n'est pas mentionné Ishayahu, Isaïe, Isaïe, ou Yirmiyahu, Jérémie, etc. La tradition dit, les quelques exemples qui sont donnés dans la Bible, que Dieu appelle, ça signifie que de façon systématique, comme un peu des archétypes, si vous voulez, que quand Dieu appelle le prophète, ben, il l'appelle d'abord. C'est-à-dire que l'appel de Dieu n'est jamais anonyme, ou c'est pas une irruption immédiate, mais c'est comme si quelqu'un frappe à la porte. C'est un peu l'image que tenait Rabin. Voilà. Avant de rentrer, même chez soi, on s'annonce. Et donc le bon Dieu, en quelque sorte, dit « Abraham, Abraham ». Et Abraham dit « Ineni, me voici ». Yaakov, Yaakov, Shmuel, Shmuel, Samuel, Samuel, Moïse, Moïse. Voilà. Et donc on pourrait penser que c'est un Dieu qui appelle. Donc la révélation, c'est déjà... la relation entre Dieu et l'homme, et dans la tradition juive, la tradition biblique, voilà, il y a même à un moment donné une rencontre qui est unique dans l'histoire biblique, hein, c'est-à-dire que Dieu va s'adresser au peuple d'Israël. Donc ça, c'est la grande révélation, on appelle ça théophanie, manifestation de Dieu, hein. Et d'ailleurs, en hébreu, alors bon, c'est-à-dire on dit Dieu parce qu'on est habitué à dire Dieu, mais dans la Bible, il y a des noms, c'est-à-dire il y a des désignations de Dieu. Des fois, on dit Elohim. Alors Elohim, c'est le Dieu créateur. Bereshit bara Elohim, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, avec un pluriel de majesté ou un pluriel qui englobe la totalité des forces. C'est-à-dire c'est l'être qui donne la vie à la totalité du monde, ou bien Tsevaot, qu'on dit le Seigneur Sabaot. Sabaoth, ça veut dire l'ensemble des forces du cosmos. Hein. C'est pas une armée de guerre, c'est une armée de gloire. Voilà, qui proclame la sainteté de Dieu, qui chante les louanges de Dieu, comme les anges, quand on voit, quand Isaïe ou Ézéchiel voient ces manifestations. Et sinon, Adonai, vous voyez, donc en fait, dès qu'on parle en hébreu, on dit plus Dieu, parce que Dieu c'est Théos, voilà, ça renvoie même à Zeus, et par contre on a soit des formulations directes, par exemple Elohim, Adonai, Adonai Tsevaot, Yah, comme dans Alléluia, Yah étant le diminutif du tétragramme, c'est les deux premières lettres du tétragramme, c'est quatre lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, c'est-à-dire le Adonai, on ne lit, ne lit pas tel qu'il est écrit, et on appelle Adonai, mon Seigneur, avec un pluriel de majesté aussi, et donc Dieu va se manifester ici, enfin, donc Elohim ou Adonai, se manifeste au peuple d'Israël. Hein, et donc, c'est le fameux épisode de la révélation du Décalogue. C'est le chapitre 19 et le chapitre 20 de l'Exode, où là, c'est la grande révélation et qui est faite à la totalité du peuple. Et comme dans des chapitres précédents, lorsque Pharaon avait demandé à Moïse, mais qui va partir finalement? Parce que bon, Pharaon dit, je ne laisse pas partir. Après, il y a une plaie. Il dit, OK, je laisse partir. Dès que la plaie s'arrête, bon, il se rétracte. Et à un moment donné, il dit, mais alors, qui va partir? Alors, Moïse dit, on va partir, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les garçons et les filles. C'est-à-dire, en fait, comme si Pharaon pensait qu'il y avait une caste de prêtres, et qu'à la limite, puisque vous avez demandé de servir votre Dieu, ce Adonai, que je ne connais pas, puisque tu viens au nom de Adonai, les prêtres, nous aussi, en Égypte, on a des prêtres, donc les prêtres, et puis vous restez. Et Moïse lui dit, la leçon de notre Dieu, c'est qu'en fait, nous sommes une collectivité de prêtres. Ça veut dire, Israël, dans sa globalité, et une royauté de prêtres, ça veut dire un système, donc un peuple, Mamlechet Kohanim, c'est au tout début du chapitre 19, et quand Dieu dit, vous serez pour moi Mamlechet Kohanim. Ça veut dire que, surtout si on se remet dans le contexte, alors c'est, dans le judaïsme libéral, on reste fidèle au texte, mais aussi on introduit des dimensions d'approche historique, même des fois d'approche critique. Voilà. Mais pour mieux comprendre des fois le texte, même aujourd'hui en Israël, il y a beaucoup de chercheurs qui font, même des fois sur les traductions, on est plus minutieux parce qu'on a découvert d'autres langues, l'acadien ou des découvertes qu'on a fait à Ougarit, etc., enfin des sites archéologiques, qui nous donnent des fois des renseignements pour pouvoir mieux travailler le texte et mieux le comprendre. Donc c'est des recherches qui se font à l'université de Bar-Ilan, l'université de Jérusalem, voilà, vraiment très, très intéressantes. Et l'idée, c'est que c'est la collectivité d'Israël qui devient prêtre au sein de l'humanité. Alors qu'est-ce que c'est que cette prêtrise, hein? Est-ce que ça veut dire qu'on est tous des prêtres, c'est-à-dire tous se vouer à devenir par exemple des rabbins ou... Non, ça veut dire que l'ensemble du peuple d'Israël est témoin du Dieu 1. C'est-à-dire que la révélation, c'est la révélation du Dieu 1. Adonai Echad, Dieu est 1. Et si on se remet bien sûr dans le contexte, alors on comprend que c'est une révolution. C'est-à-dire cette révélation du Dieu 1, c'est aussi une révolution. Pourquoi ? Parce que au moment où le phénomène collectif de révélation de ce Dieu se réalise, la totalité de l'humanité, alors on va dire le Proche-Orient, ce qu'on pouvait connaître, peut-être les îles lointaines, comme disent les psaumes et les prophètes, on pourrait dire peut-être jusqu'aux frontières de la Méditerranée de l'autre côté, de l'Europe, donc, eh bien, ce sont des traditions polythéistes. Que ce soit les Égyptiens ou les Sumériens, les Mésopotamiens. Et, d'ailleurs, tous les récits antérieurs à l'écriture de la Torah, qui est tardive par rapport à des récits plus anciens, eh bien, d'abord, c'est l'histoire des dieux. Hein, c'est-à-dire comment les dieux ont commencé à gérer leur propre monde, même à se faire la guerre. Et puis il y a des dieux supérieurs, des dieux inférieurs. Dans le récit de, par exemple, l'épopée de Gilgamesh, c'est parce que les dieux inférieurs veulent se révolter parce qu'ils travaillent pour les dieux supérieurs, alors ils vont créer les hommes. Voilà, puis après, les hommes font trop de bruit, alors ça va être le déluge. Enfin voilà, ça va être justifié comme ça. Et voilà que la révélation... C'est la révélation d'un Dieu 1, il n'y en a pas 36, donc principe du, si on peut dire, la foi monothéiste, hein, dont Israël est le gardien. Hein. C'est-à-dire, c'est ça d'être un peuple de prêtres, c'est-à-dire le prêtre au nom du Dieu 1. Hein. Et, par exemple, si vous regardez le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit qu'il y ait des grands luminaires. Le grand luminaire pour éclairer le jour et le petit luminaire pour éclairer la nuit. Alors on se dit, certains commentateurs disent, mais pourquoi le grand luminaire et le petit luminaire, l'hébreu a un vocabulaire pour dire le soleil et la lune? Pour dire le soleil, on dit Shemesh, et pour dire la lune, on dit Yareach. Et donc pourquoi le grand et petit luminaire? Et une réponse qu'on peut donner, c'est que c'est pour prendre justement le contre-pied des civilisations qui donnaient le nom de divinité au soleil et à la lune. Shemesh, Shamash par exemple en Babylonie, chez les Chaldéens, Shamash c'est la divinité, une grande divinité puissante. Et là on dit non, ce que vous appelez divinité, en fait ce n'est qu'une lampe, voilà, on allume la lumière, Dieu allume la lumière le matin, il faut une grande lumière, et puis la nuit se met en mode veille, et puis ces petites lumières avec les étoiles, et donc on voit que peut-être la raison pour laquelle c'est écrit grand et petit luminaire, ça veut dire pour les civilisations que le peuple d'Israël va traverser dans l'Antiquité, ce sont des divinités, et pour nous, non, ce sont des créations de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il a tout créé, le ciel et la terre et tout ce qu'ils enferment, comme est dit au début du deuxième chapitre de la Genèse. Et donc, ici, la révélation, c'est la révolution du monothéisme. Alors, avec les implications que cela a, c'est-à-dire que si on dit qu'il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est la première affirmation, et ça veut dire que l'humanité procède d'un Dieu unique. Voilà. Donc, je sais que l'idée, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, même certains critiquaient le monothéisme comme une forme de totalitarisme, même jusqu'à Michel Onfray qui avait écrit un livre là-dessus, je vois que vous avez débattu là-dessus, eh bien, voilà, mais ça dépend comment on comprend le monothéisme. Le monothéisme, c'est aussi une éthique. C'est-à-dire que finalement, on a un seul Père, notre Père qui est aux cieux, voilà, c'est la prière « Avinu Sheba Shamaim », notre Père qui est aux cieux, et donc, si on a un seul Papa, donc nous sommes tous des enfants, des frères et des sœurs, et donc la grande question de la révélation, c'est aussi comment réussir une fraternité, hein. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs la première question de l'histoire en tant qu'histoire. C'est-à-dire que la révélation est entendue aussi comme donner du sens à la création. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas expliquer pourquoi le monde fonctionne comme ça, pourquoi des fois il y a des malheurs qui peuvent nous toucher. Voilà, c'est la réponse de Dieu à Job, ça, tu n'étais pas avec moi quand j'ai créé le monde. Mais par contre, il y a une question fondatrice dans la révélation. C'est lié à la première histoire humaine en tant qu'histoire humaine. Alors qu'est-ce que c'est que l'histoire humaine ? L'histoire humaine, c'est l'histoire de l'engendrement. C'est-à-dire que on peut dire que Adam et Ève, c'est une méta-histoire. Et que Adam et Ève, ce sont des méta-humains parce qu'ils sont façonnés, l'homme est façonné, et la femme est construite, Vaïven est assez là, il a construit le côté, dit le texte. Mais les premiers engendrés, ça veut dire qu'il y aura un papa et une maman, hein, donc il y a une mémoire, donc ils peuvent être psychanalysés, si vous voulez, eh bien c'est Cain et Abel. C'est Cain et Abel. Oui, et c'est quoi le début de l'histoire ? Ben là, bien sûr, on va retrouver des thématiques universelles, c'est Romulus et Rémus et d'autres récits comme ça qu'on va trouver dans l'humanité. C'est comment, quand on est en proximité, hein, on peut vivre ensemble. Ça veut dire, la Torah nous dit que, enfin, les récits bibliques, mais quand on est proche, il y a du conflit, c'est-à-dire c'est les proximités dangereuses, hein, les proximités dangereuses. D'ailleurs, si on regarde bien toute l'histoire biblique, on voit que les Hébreux ont maille à partie avec Amon, avec Moab, avec voilà, et tous ces peuples-là, en fait, on découvre que c'est la même famille d'Abraham. Voilà, mais après ça a éclaté à droite. Ismaël, jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, on est proche. Hein, et donc la question, c'est comment, quand on est si proche que ça, on réussit. Alors, on pense que la fraternité, ça se construit facilement. Non, d'ailleurs, je pense, petite parenthèse, mais c'est dans notre sujet, que si aujourd'hui il y a un rabbin qui vient vous parler, voilà, dans le cadre de votre aumônerie catholique, bah, c'est parce que derrière, il y a plus de 50 ans de dialogue entre juifs et chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fraternité qui s'est construite. Voilà, vous connaissez bien sûr le Concile Vatican II, moi je me considère un peu comme un héritier, un enfant de Vatican II, même si j'étais j'étais en culotte courte, mais disons, en grandissant, voilà, je me dis, oui, nous sommes les héritiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre juifs et chrétiens, par exemple, les amitiés judo-chrétiennes, ou d'autres associations, ou des rencontres, ou d'autres types d'activités, d'associations, même des fois simplement dans des paroisses, eh bien, je crois que si c'est possible entre juifs et chrétiens de s'entendre, et dans les deux sens, c'est-à-dire que non seulement on s'entend, mais en plus, ben, beaucoup de chrétiens, ben, on n'est pas très loin des Bernardins, je crois, voilà, où il y a beaucoup de chrétiens qui se mettent à l'hébreu, par exemple, qui se mettent à la tradition juive. Mais il faut savoir aussi, dans l'autre sens, que beaucoup de juifs aujourd'hui se mettent à étudier aussi la deuxième partie de la Bible, c'est-à-dire même les évangiles, etc., et que ça se fait plus sereinement. C'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité, quoi, qui a été cousu, hein, je dis volontairement cousu, parce que fraternité en hébreu, c'est la racine coudre. Ach, acho, ça veut dire coudre du lien, pour pas en découdre, justement, avec quelqu'un. Voilà. Et donc, vous voyez, la question de la révélation, c'est la question de l'histoire, hein, c'est-à-dire de naissance à l'histoire et comment construire la fraternité, parce qu'à partir de ce monothéisme originel, ben, nous sommes tous les enfants de Dieu. Voilà. On peut le dire soit déjà avec Adam et Ève, hein, voilà, c'est-à-dire l'homme et la femme qui procèdent de Dieu, et on pourrait dire ça aussi au niveau des peuples, parce que voilà, il y avait on nous dit au début du chapitre 11, il y avait une seule langue et des mêmes propos. Vaïkola Aretz, toute la terre, c'est-à-dire toute l'humanité avait les mêmes propos. Donc on pourrait dire c'est une sorte d'idéal. Donc on espère qu'une humanité soit uniforme. Voilà, il y a plus de conflits parce que c'est un jeu de miroir. Et semble-t-il, du point de vue du texte biblique, que la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait des différences, justement, et qu'il n'y ait pas de monochromie. Voilà, puisque le monde est créé dans la différence. Dieu sépare. Dieu crée, mais après il sépare les éléments. Donc la séparation, la distinction, ça commence la lumière, l'obscurité, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, le ciel, la terre, l'homme, la femme, voilà. Même l'homme au départ est en quelque sorte masculin, féminin, androgyne, séparé, voilà. Et donc même à Babel, il y a la séparation. On pourrait dire que si on devait résumer contenu de la révélation divine, elle s'exprime à travers les trois questions que Dieu pose au début de l'histoire. C'est-à-dire, dans le troisième chapitre de la Genèse et quatrième chapitre. Le troisième chapitre, c'est l'épisode de la faute, du jardin d'Éden. Le quatrième chapitre, c'est Caïn et Abel. Et on remarque ici, alors on n'est pas encore vraiment dans la révélation, telle qu'on pourrait entendre, l'Éternel parla à, il n'est pas mentionné par exemple, l'Éternel parla à Adam pour dire, comme il dit, l'Éternel parla à Moïse pour dire, ou bien on n'a pas les formulations des prophètes, ainsi parle l'Éternel, ko amar Adonai, ou razon Ishayahu ben Amots, ou vision de Isaïe, fils de Amots, qui a vu sur Jérusalem, etc. Donc, c'est-à-dire, tout de suite, dans le récit biblique, il y a cette relation qui est assez limitée d'ailleurs, c'est-à-dire que Dieu crée Adam, il est béni, il bénit Adam et Ève dans le premier chapitre, ensuite dans le deuxième chapitre, il lui dit « tu manges de tout sauf de ça », c'est assez limité d'ailleurs, on peut se dire « mais il n'y a pas beaucoup de paroles entre Dieu et Adam qui est tout seul, il est vraiment seul quoi, dans son jardin, il a juste entendu une voix de Dieu hein. ». Mais il y a trois questions qui sont posées au début. La première question, c'est « où es-tu ?» Ayeka, en hébreu. « Où es-tu ?» Ensuite, le Adonai Elohim, parce que là c'est le doublon, Adonai Elohim se tourne vers la femme et dit « Ma'asit, qu'est-ce que tu as fait ?» Et troisième question, c'est en chapitre 4, après le meurtre d'Abel par Caïn, il lui dit « He Evel Achicha, où est Abel ton frère ?» Trois questions. Ça veut dire 1. Où es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Où est ton frère ? La tradition, on va dire, c'est un peu tout le résumé, on pourrait dire, de la révélation. Ce que Dieu va dire par la suite de la révélation, c'est au fond ces questions fondamentales. Où es-tu ? Alors bien sûr, les enfants vont se dire, mais attends, est-ce que Dieu ne sait pas où est Adam ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire où es-tu ? Ça veut dire où en es-tu ? Donc, première question, c'est qu'est-ce que tu as fait de ton humanité ? Où es-tu ? Ça veut dire où en es-tu de toi-même ? Comme des fois, on se pose la question, je suis un peu paumé, je ne sais plus où je suis, là, faut que je fasse un petit break. Là, c'est... Voilà. Donc, où es-tu? C'est vraiment une question fondamentale. Ça veut dire, toujours sur le plan, sur un plan spirituel, sur un plan moral, sur un plan éthique, sur un plan intérieur. Voilà. Deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire, est-ce que tous les actes que nous faisons, du fait qu'ils ont toujours des répercussions, il n'y a jamais d'acte neutre, hein, je tape sur la table, voilà, il y a un bruit, on parle bien de l'effet papillon qui pourrait engendrer un orage ou un ouragan de l'autre côté, donc il n'y a pas de geste anonyme. Et puis, troisième question, c'est où est ton frère? Ça veut dire comment se situe par rapport à son frère? Donc c'est intéressant, c'est que au commencement, Dieu pose des questions. Hein. C'est-à-dire que la tradition dit, ben justement, Dieu, au départ, il ne fait même pas violence, même lorsque l'homme a désobéi, mais plutôt que l'homme réfléchisse à ses manquements, à ses défaillances. Ce qui est aussi sous-entendu dans l'idée de la révélation, c'est la notion de bérite. On est obligé de parler aussi, je crois, quand on parle de la révélation, de la bérite. La bérite, ça veut dire l'alliance. C'est un Dieu qui fait alliance avec sa création. Quand on lit les psaumes, beaucoup de psaumes, que le psalmiste il dit « je suis rien »,« anitolaat velo ish », dit David, je suis un vermisseau, je suis même pas un homme, je suis rien du tout. Ou bien Abraham dit « afar va efer », je suis humus et cendre. Ou Moïse et Aaron, devant la révolte du peuple, dit « anarnouma », on est quoi? On est quoi? On est une question, on est rien. Voilà. Et ou bien David dit Mahayai, qui suis-je, quelle est ma vie, pour que je devienne le gendre de Saül qui veut me donner sa fille. Enfin, on voit ce genre de questions que l'homme, quand il se regarde lui-même, il dit mais je suis rien du tout. Voilà, aujourd'hui ici, comme l'herbe qui se dessèche. Voilà, beaucoup de thèmes comme ça des psaumes, hein, qu'on récite. On est comme l'herbe qui se dessèche. Aujourd'hui c'est vert et puis le soir hop c'est desséché. Alors, c'est-à-dire qu'en même temps, l'homme est rien devant le Créateur. Et en même temps, ce Créateur, ben, il fait alliance. Hein, il fait bérite. Alors, bon, bérite, qu'on trouve par exemple, bérite mila, l'alliance de la circoncision, qui renvoie à Abraham. Ça veut dire qu'Abraham et Dieu, il y a comme une sorte de contrat. Ou bien Sefer HaBerit, dans le livre de l'Exode, chapitre 24, on dit que Moïse a écrit le Sefer HaBerit. Sans doute c'était les 10 paroles et puis les lois sociales qui ont suivi. Ça s'appelle Sefer HaBerit. Aussi Aaron HaBerit, l'Arche d'Alliance. On a même fait un film, l'Arche d'Alliance. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette alliance? Et puis, bien sûr, même avec l'humanité, c'est l'arc-en-ciel. Je vais faire alliance, voilà, et Dieu n'en verra plus le déluge, etc. Alors, cette idée est liée à la révélation. C'est-à-dire que Dieu accepte en quelque sorte, là c'est, les rabbins, ils ont cette formule, là où tu trouves la grandeur du saint béni soit-il, là tu trouves son humilité. Alors, comme les rabbins ne veulent pas dire le nom de Dieu, hors de contexte liturgique ou d'étude, alors ils ont utiliser des formulations de type, au lieu de dire Dieu l'omniprésent, ils disent Makom, il est le lieu du monde. Dieu, c'est le lieu. Voyez. Ou bien Akadosh Baruch Hu, le saint, béni soit-il. Saint, ça veut dire il est séparé, ça fait référence à Isaïe 6, hein, Kadosh, le Sanctus, voilà, qui est une prière commune, le Sanctus, saint, 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 le Seigneur Sabaoth, la terre est emplie de sa gloire. Voilà. Et puis, en même temps, Akadosh, mais Baruch Hu. En même temps, il est source de bénédiction. Donc, il est à la fois séparé, mais en même temps, voilà, notre cœur qui bat, bah, c'est la bénédiction de Dieu, voilà, que notre cœur puisse fonctionner. Et donc, les rabbins ont plusieurs formules pour parler. Et par exemple, aussi, on trouve Avinu Shebashamayim, notre Père qui est aux cieux. Voilà, c'était une formule aussi qu'on trouve dans la tradition. On dit que Abraham s'en va, et puis c'est un midrash, c'est une tradition rabbinique. Il dit le Satan a pris les traits d'un vieillard et il dit à Abraham, espèce de vieux fou, tu vas sacrifier ton fils, mais on va dire de toi que tu es un imbécile. Et Abraham répond, tais-toi, je vais accomplir la volonté de mon père qui est aux cieux. Ani Oler. Les Kayem Mitzvah, d'accomplir le commandement de Avi Shebashamayim, mon père qui est aux cieux. Donc voilà, c'est des formules qui était utilisée. Et là, il y a cette formule, là où tu trouves la grandeur du Saint, béni soit-il, tu trouves la grandeur de Dieu, là tu trouves aussi son humilité. Et on applique souvent même avec le buisson ardent, le buisson, c'est-à-dire parce que ce feu, justement, qui est la toute-puissance de Dieu et qui retient sa puissance pour ne pas consumer le bois, le buisson, mais lui garder sa verdeur. Alors donc la notion d'alliance, c'est-à-dire c'est d'ailleurs comme dans l'Antiquité, les alliances c'était des contrats. Ça pouvait être des alliances entre deux peuples, les Égyptiens et les Assyriens. Ça peut être aussi entre des rois et les vassaux. C'est-à-dire qu'il y a un échange. Alors Dieu va donner, il donne sa grâce, il donne ses bénédictions, il a le débordement de l'être, comme on a dit tout à l'heure. Et puis, la créature va réaliser la volonté, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donc, il y a une volonté à réaliser. Et donc, cette notion que Dieu donne et que l'homme aussi accomplit, non pas pour dire qu'on va donner à Dieu, même le texte biblique, il le dit clairement, c'est quand le verset dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est marqué « ve'ahavta le'reacha », tu aimeras pour ton prochain. La bonne traduction dans le chapitre 19 du Lévitique, c'est « Ve'avta le'reacha », tu aimeras pour ton prochain. Pourquoi ? Parce que dans la conception de l'amour, c'est de donner. Donc, pour ton prochain, il faut que tu ailles vers lui. Donc, même l'hébreu, quand on fait l'hébreu, on voit... Alors, par contre, vis-à-vis de Dieu, dans le chapitre 6 du Deutéronome, quand Moïse s'adresse au peuple d'Israël, là, il dit « Ve'avta », non pas « l'Adonai », non pas « tu aimeras pour l'Éternel », mais « Ve'avta et Adonai », tu aimeras... complément d'objet direct, si on peut dire, pour Dieu, et qui introduit le complément d'objet direct, Adonai. C'est-à-dire que avec Dieu, on donne rien, hein, sauf lui donner notre amour. Voilà, c'est ça. Ve'ahavta, tu aimeras, et Adonai. Ça veut dire que de quelle manière, en quelque sorte, je donne Dieu, je lui donne mon amour. Et la suite du verset, c'est tu parleras de ses paroles, tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras sur le chemin. Voilà, c'est le rapport à la Torah, enfin ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et donc, la notion d'alliance, elle est intrinsèque à la notion de révélation. Ça veut dire que, comme si Dieu accepte de rentrer dans l'histoire, enfin, il rentre dans l'histoire des hommes, il va au rythme des hommes, des enfants d'Israël en particulier, puisque bon, la Bible, c'est à partir du chapitre 12, c'est un petit peu la mémoire du peuple d'Israël, mais du fait qu'il y a un prélude de 11 chapitres qui parle de l'humanité, c'est le Dieu de l'humanité, mais qui est reconnu par les patriarches qui transmettent à leurs enfants, etc. Et donc cette alliance, elle implique donc la réalisation d'une histoire. Alors, peut-être un dernier point, et puis après, je vous donne la parole, c'est des petites touches. C'est que cette révélation, elle est maintenue. C'est-à-dire que non seulement il y a la grande révélation, on pourrait dire, celle du Sinaï, voilà, où Dieu s'adresse à l'ensemble du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, un autre point qui me paraît important aussi de dire de la révélation de Dieu, c'est que Dieu se révèle, et quand il se retire, enfin, quand le phénomène prophétique cesse, il reste une loi. Ça veut dire... le devoir de l'homme, n'est-ce pas, à accomplir pour réaliser son humanité. Ça, c'est vraiment un point central, même si ensuite, au sein du judaïsme, on peut toujours discuter, est-ce que le Shabbat, on a le droit de faire ceci ou de faire cela, est-ce qu'on a le droit de manger ceci ou cela. Après, ce sont des débats internes. Mais disons, sur le principe, c'est que quand Dieu, en quelque sorte, comme un ressac, voilà, il se révèle, et après, comme s'il y a une respiration de Dieu, et après une expiration, une inspiration, et il reste la parole. Donc, d'ailleurs, on ne dit pas les 10 commandements, hein, contrairement au film, mais on dit les 10 paroles, voilà, qui sont les fondamentaux de la société biblique, de cette royauté. C'est-à-dire à la fois, bien sûr, on va dire les interdits majeurs, ne pas tuer, ne pas voler, voilà, ne pas faire de faux témoignages ou pas convoiter, mais c'est fondé sur la première parole, « Je suis éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Donc, c'est-à-dire que c'est une révélation qui est exigeante. Ça, c'est la particularité de la révélation biblique, et donc du Dieu qui se révèle, c'est que c'est un Dieu de l'exigence. C'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle on peut comprendre dans le prophétisme par la suite, c'est par exemple, prenons les chapitres 17, 18, 19 du premier livre des rois, c'est-à-dire l'histoire du prophète Élie, Élie ou Navi en hébreu, le prophète Élie avec le roi Akab et puis la reine Jézabel, hein, et l'épisode du mont Carmel, où là le prophète dit jusqu'à quand vous allez clopiner sur deux branches, quoi. Si c'est Dieu, si c'est Adonai, suivez Adonai, mais si c'est le Baal, suivez le Baal, mais vous pouvez pas jouer sur deux tableaux en quelque sorte. Et on pourrait expliquer que les Hébreux, parce que le monothéisme c'est une idée révolutionnaire, mais elle a du mal à entrer dans les esprits des Hébreux, des premiers Hébreux. Soit parce qu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont habitués à l'idolâtrie. On voit bien qu'après, ils ont fait un veau d'or en l'absence de Moïse. Mais aussi, il y a sans arrêt comme une sorte d'appel, de séduction des idoles. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de servir le Baal que de servir Dieu. Parce que le Dieu biblique, le Dieu de la révélation, c'est une exigence morale. Il suffit de lire les prophètes, Isaïe, Osée, jusqu'au dernier, jusqu'à Malachie. Hein, c'est-à-dire c'est une exigence morale totale, et on passe en quelque sorte au crible les comportements. Est-ce que vous avez été des bons partenaires dans l'alliance pour construire la justice, la charité, pour construire entre guillemets la cité de Dieu, ou bien est-ce que vous avez utilisé votre pouvoir pour à des fins personnelles? C'est pourquoi la fonction prophétique, c'est une fonction de révélation comme un contre-pouvoir. C'est-à-dire la société biblique, elle fonctionne sur trois pouvoirs, qui sont le pouvoir des prêtres, donc pouvoir religieux, Cohen, qui descendent de Aaron. Ensuite, le pouvoir législatif, les juges, représentés par Moïse, et ensuite même on a le livre des juges. Et puis en troisième, je ne dis pas en premier, en troisième, parce que semble-t-il que c'est un pis-aller. Si on regarde dans le livre de Samuel, au chapitre 8, on voit que lorsque le peuple dit « on veut un roi », et Samuel dit « on a déjà un roi, c'est Dieu ». Même dans le livre des juges, il y a l'histoire de Gédéon, et on dit à Gédéon « voilà, tu nous as délivrés de nos ennemis, deviens roi ». Il dit « mais ni moi, ni mes enfants ne seront des rois ». Adonai, ou Moshe, c'est Dieu qui est votre roi. Donc il y avait un système idéal où c'est Dieu qui est le roi, il n'y a pas besoin de roi, mais finalement on passe à la royauté, donc Saül, mais ensuite David, et donc on a un pouvoir religieux, un pouvoir législatif, un pouvoir politique, qui sont séparés, c'est très important, il n'y a pas de cumul de pouvoir, et puis le contre-pouvoir, c'est le pouvoir prophétique, c'est-à-dire la révélation qui est maintenu dans chaque génération, qui rappelle l'alliance de Dieu, la révélation de Dieu, lorsque les hommes vont abuser de ce pouvoir. Et voilà un petit peu les éléments essentiels que je pourrais dire pour résumer un peu sur le thème de la révélation. Nous avons une fête de la révélation, pour terminer. Et la fête de la révélation, c'est la fête de Shavuot, la fête des semaines, qui correspond à Pentecôte, et parce que 50 jours après la sortie d'Égypte, justement, parce qu'après la sortie d'Égypte, le peuple est dirigé par la nuée, voilà, qui les dirige vers le mont Sinaï. Et donc, pour se rappeler l'épisode de la révélation, de la grande révélation au peuple d'Israël, même si par la suite c'est Moïse qui va transmettre, parce que même le peuple lui-même, devant cette expérience, est effrayé, c'est l'effroi de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, et demande à Moïse de « c'est toi qui parles », et Moïse donc va devenir l'intermédiaire, mais nous avons une célébration, c'est la fête justement de Shavuot, qui consiste, c'est la fête aussi du printemps, enfin des moissons de blé, donc c'est déjà les beaux jours, c'est le mois de juin, et concrètement, dans les synagogues, c'est le jour où on étudie, on lit d'abord les dix paroles. Et dans beaucoup de synagogues, on a l'habitude de rester éveillé toute la nuit pour étudier la Torah. Et en particulier, on étudie le décalogue la nuit, voilà, comme des cercles d'études, comme vous devez le faire. Voilà. Et au petit matin, eh bien, on prie avec le lever du soleil. Et donc, on commémore cette révélation tout en considérant peut-être que des hommes et des femmes, dans chaque génération, jusqu'aujourd'hui, qui sont des hommes de bonté, de générosité, de justice, ce que la tradition appelle les justes cachés dans le monde, eh bien, qui continuent d'œuvrer pour le bien, contre voilà, les folies meurtrières, et considèrent qu'ils sont inspirés. Soit ils le savent, soit ils ne le savent pas, mais Moïse aussi ne savait pas au départ pourquoi il était travaillé par la question de la justice, mais finalement il découvre après que voilà, il est aussi l'élu de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'ai 59 minutes 16.
Et merci beaucoup. Voilà. Il faut apprendre l'hébreu, hein, parce que Philippi, spontanément l'hébreu, alors moi j'aime beaucoup ça, mais il faut apprendre l'hébreu, hein, c'est indispensable. Est-ce que vous avez des questions? Profitez, voilà. Profitez du rabbin. C'est pas tous les jours qu'on en a un sous la main.
Oui,
jeune homme.
Une question, parce que vous dites donc que l'être humain est l'émanation de la terre, et créé par Dieu, il y avait, mais alors expliquez-moi pourquoi, par exemple, dans le judaïsme, peut se transmettre par la mère, par le ventre de la mère.
Oui.
Comment, expliquez-moi cette dissociation donc, entre la création de l'être humain par la terre créée par Yahvé et la transmission du judaïsme créée par l'être créé par Yahvé qui est la mère en l'occasion, la mère juive.
Oui, la mère juive. Alors, il faut savoir que ça, c'était un choix rabbinique tardif. C'est même pas sûr qu'à l'époque de Jésus, ça passait par la mère. Bibliquement, ça passait par le Père, de toute façon, si on regarde. C'est-à-dire que, comme c'était des sociétés patriarcales, donc si une personne se mariait avec un juif, un hébreu, à ce moment-là, c'était pas des juifs, bah, à ce moment-là, cette personne entrait dans le peuple d'Israël. En fait, c'est après la destruction du Temple que les rabbins ont fait ce choix, c'est-à-dire quand d'une certaine manière, c'est créé comme la religion juive. Mais au départ, c'était le fait d'intégrer le peuple d'Israël. Comme on voit Ruth, par exemple, dans le livre de Ruth, on voit que cette personne, bon, elle n'est ni mère juive, elle est de Moab, dont l'ancêtre était Lot et sa fille aînée, voilà. Et donc, elle fait une déclaration. « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Et à ce moment-là, elle est intégrée. Non seulement elle est intégrée, mais elle va épouser Boaz, elle va être l'ancêtre de David le Messie, enfin l'ancêtre du Messie, etc. Donc, ça a été tardivement qu'il y a eu un choix des rabbins de dire que peut-être à cause de la situation avec les Romains qui s'est passée de façon très concrète, qu'on a décidé que ça passerait par la mer. Ça, c'est un point de divergence avec les judaïstes progressistes, puisque justement, dans la tradition progressiste, on considère que si la mère ou le père est juif, et bien sûr qu'il y a une éducation juive, hein, à ce moment-là, l'enfant est reconnu comme juif. Donc, en fait, votre question, elle est juste, mais elle s'inscrit dans un contexte historique. Mais, d'un autre côté, je ne peux pas nier que c'est vrai que dans le judaïsme orthodoxe, aujourd'hui, on demande si la maman est juive. Donc, c'est par exemple, si j'ai parlé au début d'un mariage mixte, si la maman est juive et le papa ne l'est pas, l'enfant est juif. Et dans le cas inverse, non, ça ne fonctionne pas. Alors, des fois, il y a une conversion au judaïsme, si, bien sûr, on fait la demande, quoi. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça devrait passer par la mère, parce que Adam vient de Adama, et Adama, c'est aussi la mère. Oui, parce que c'est une matrie, Adama. Et donc l'homme vient de la terre, ça veut dire il vient de la mer, et donc il retourne en quelque sorte à la terre, et il retourne à la mer. Voilà. Adam, c'est le masculin de Adama, on parle encore de l'hébreu. Donc la terre est vraiment féminine, c'est une matrice. Voilà. Et Dieu, ben il insuffle dans cette matière matricielle le souffle qui va donner le Adam, et puis ensuite il va séparer le féminin. Voilà. Donc cette question, elle est encore d'actualité, même dans des débats entre les différentes communautés. Et aux États-Unis, par exemple, beaucoup de personnes, il suffit qu'elles aient une ascendance juive et qu'elles revendiquent leur identité juive, par exemple en allant à la synagogue ou voilà, en donnant l'éducation, eh bien, pour faire partie de la communauté d'Israël, la communauté juive.
D'autres questions?
Oui, je veux. Oui, deux rapides questions. La première sur l'économie de la relation dans la révélation, comme vous avez dit que ça passe par une relation qui se reconnaît,
oui,
sur une reconnaissance mutuelle. Est-ce que dans le judaïsme, est-ce que les commentateurs disent qu'il y a une incarnation du divin lorsque, par exemple, on dit « et Dieu passa parmi eux » ou même lorsque Dieu parle?
Oui.
Alors, il y a un sort d'élément, dans quelle mesure est-ce que c'est matériel?
Oui.
Et alors, je parle dans l'économie sensible de cette relation.
Oui.
Est-ce que, quelle place est-ce que les commentateurs ont donné à cette sorte de présence physique,
oui,
de Dieu? Est-ce que Dieu s'incarne dans la tradition et dans le texte? Et deuxième question, si Dieu, dans la révélation, il y a une relation, donc une incarnation, et donc, cette relation, cette reconnaissance, il faut qu'il y ait un discernement de la part de l'homme, de ce qui relève de la parole divine, et de ce qui n'en relève pas. Et quel critère nous permet de dire parole divine, révélation,
oui,
pas parole divine, pas révélation? Et c'est un peu la question centrale qui divise judaïsme et christianisme.
Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, la notion d'incarnation telle que est entendue dans la tradition chrétienne n'est pas reconnue par du judaïsme contemporain. C'est pas si simple que ça, parce que les premiers chrétiens étaient des juifs. C'est-à-dire que parmi la population juive de l'époque de Jésus, certains ont reconnu Jésus. Alors je ne sais pas si à ce moment-là, ils ont encore reconnu l'incarnation, parce que il y a des strates. Je pense qu'ils ont reconnu le Messie. Mais le Messie, ce n'est pas une incarnation de Dieu, c'est le roi, un peu une image davidique, mais on n'a jamais dit que David, c'est l'incarnation. Donc il est possible aussi, dans la mémoire chrétienne, qu'il y a une élaboration jusqu'à l'incarnation. Mais, par exemple, jusqu'au IIIe siècle, les judéo-chrétiens, c'était des juifs. C'est des juifs qui disaient que Jésus était le Messie. Je ne pense pas qu'ils disaient que c'était l'incarnation. Et peut-être ça a évolué peut-être d'une communauté à l'autre, parce qu'on voit même dans des... Alors aujourd'hui, les recherches qui sont faites là-dessus, comme le professeur Dan Jaffe ou le professeur Boyarin, qui est aussi rabbin d'ailleurs, et qui travaille beaucoup sur les évangiles, et c'est une nouvelle approche historique, hein, on dit jusqu'au IIIe siècle, eh bien, il y avait des rencontres, des débats, on priait ensemble, c'est-à-dire que les judéo-chrétiens étaient des juifs. Ils allaient à la synagogue, le Shabbat, ils mangeaient kasher, ils faisaient la circoncision. Il n'y a pas de différence. Sauf qu'ils disaient, Jésus, c'est le Messie. Et pour se rappeler, on va faire le repas, hein, la messe, c'est-à-dire le dimanche, voilà, le jour de la résurrection. Mais sinon, c'était des juifs. Hein, par la suite, il y a une rupture, mais jusqu'au IIIe siècle, vraiment, on peut dire que... justement, le fait qu'il n'y ait pas eu de... On ne voit pas de traces, par exemple, dans la Mishnah, c'est-à-dire entre 200 et 220, la Mishnah, on ne voit pas du tout de traces du christianisme. Qu'était le christianisme à ce moment-là? C'est déjà anachronique de dire le christianisme. Hein, il y avait des judéo-chrétiens qui disaient Jésus est le Messie, Mashiach, et puis le libérateur. Mais c'est dans le Talmud, donc il a été rédigé vers le 5e, 6e siècle, où là, en effet, on voit des bribes de discussion, et même certains rabbins qui citent même des fois Jésus, ou les disciples de Jésus, vraiment à bon escient. C'est-à-dire que les enseignants de Jésus même sont reconnus dans certains... Je vous renvoie aux travaux de Dan Jaffe sur la question, qui est un des spécialistes qui vit en Israël, mais qui est franco-israélien. Dan Jaffe, de Zef. Alors, donc, comment on peut comprendre l'incarnation? On peut dire, en quelque sorte, que le fait qu'il y ait une réalité autre que Dieu... C'est-à-dire Dieu est autre que Dieu, procède de Dieu. Parce que Dieu dit, yéhi or, que la lumière soit, la lumière fut. Et, alors il faut faire très attention aussi, parce qu'il n'est pas mentionné que Dieu a créé la lumière. Il faut voir dans quel cas le mot créer est utilisé, dans quel cas le mot faire est utilisé, dans quel cas le mot dire est utilisé. Mais par exemple, pour la création de la vie, on va dire les végétaux ou les animaux, Dieu dit à la terre, que la terre produise. Autrement dit, le verbe de Dieu, ou le souffle de Dieu, la parole de Dieu, qu'on ne sait peut-être pas ce que c'est que la parole de Dieu, peut-être c'est un anthropomorphisme, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu, est-ce que c'est pas des décibels, etc., qu'est-ce que c'est? Mais, en effet, Dieu dit à la terre, et la terre produit. Donc autrement dit, la puissance de germination de la terre, c'est la puissance de Dieu qui est dans la terre. La même chose quand Dieu dit aux eaux, que les eaux produisent des poissons et des oiseaux. Dans le premier jour, les oiseaux sont des poissons qui ont réussi leur envol. Et Dieu parle à l'eau, que l'eau produise. Voilà. Ou bien, aussi, le sixième jour, avant l'homme, que la terre produise donc, des animaux. Donc on voit que la parole de Dieu, en quelque sorte, elle féconde, si on peut dire, la terre, et donc la forme d'incarnation, je mettrai entre guillemets, incarnation de chair, mais peut-être qu'il n'y a pas seulement le terme de chair, ça veut dire que la parole de Dieu, elle se végétalise pour les végétaux, elle s'animalise pour les animaux, elle s'humanise pour l'humain, et l'hébreu a, là encore, il y a un mot qui veut dire un peu cette idée, c'est que le mot davar en hébreu, ça veut dire une chose et une parole. Ça veut dire que toute chose, c'est une parole. Et là, je me réfère davantage peut-être à la tradition kabbaliste. Les kabbalistes disent que, mais vous pouvez le comprendre peut-être comme une idée, peut-être même en physique quantique. C'est-à-dire que les lettres, ce sont les énergies de création. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que la réalité, hein, en fait, cette réalité qui paraît solide, en fait, c'est une combinaison d'atomes, etc. Mais qu'est-ce que sont ces atomes quand on va dans l'infiniment petit, etc. C'est de l'énergie. Bon. Et c'est de l'énergie qui est compactée et qui va donner du bois, qui va donner du verre, qui va donner de l'eau, qui va donner des plantes, qui va donner des fruits, etc. Donc on peut dire du point de vue de la Torah, hein, pour la création, qu'en effet tout ce qui existe, c'est comme une concrétisation ou une chosification du davar de Dieu, que justement la Septante a traduit par logos, le verbe, la parole, qui en hébreu c'est davar, et davar ça veut dire aussi la chose. Donc ça veut dire chosifié. Aussi, pour dire une bonne nouvelle en hébreu, qui est de la bonne nouvelle, c'est-à-dire les évangiles, ça se dit Bessora. Bessora. Bessora, ça veut dire une bonne nouvelle. Sinon, il faut ajouter Bessora Ra'a, parce qu'il y a aussi la mauvaise nouvelle. Parce qu'on apprend que quelqu'un a perdu, Dieu nous en préserve quelqu'un, alors on dit Bessora Ra'a. Mais si on ne dit pas Ra'a, mauvaise, Bessora, ça veut dire une bonne nouvelle. Donc comment on dit l'évangile en hébreu? On dit Bessora. Bessora, ça veut dire la bonne nouvelle. Or, le mot Bessora est construit aussi sur le mot Bassar. Bassar, ça veut dire la chair. Ça veut dire que la parole, elle se fait chair. Donc l'hébreu, il a un langage qui, à la fois, désigne ce qui n'est pas palpable et aussi ce qui est concret. Et, parce que toute réalité n'existe que par la parole de Dieu. On a même une prière, on commence la prière juive le matin. « Béni celui qui a parlé et le monde fut ». Donc, par rapport à cette question de l'incarnation, alors, bien sûr, j'entends bien l'incarnation ultime en Jésus, mais dans la tradition juive, en fait, toute réalité, c'est une réalité de la parole de Dieu qui fait que le monde est, et qui se renouvelle tous les jours. On a même cette conception d'un renouvellement permanent, on le chante aussi dans la prière du matin, « Amechadesh Betuvo », qui renouvelle tous les jours l'œuvre du commencement à chaque instant. C'est comme si à chaque instant, il y a le renouvellement de la création. C'est-à-dire que l'épanchement de l'être, l'épanchement d'amour est permanent pour que le monde soit en permanence. Donc c'est comme ça qu'on voit, non pas concentré sur le Christ, si vous voulez, mais sur la réalité du monde qui est en fait la parole de Dieu, le davar, la parole de Dieu, qui est aussi davar, l'ensemble des choses ou des éléments du monde. Voilà. Maintenant la question de savoir comment distinguer ce qui est la parole de Dieu, ce qui n'est pas la parole de Dieu, c'est déjà une question qui s'est posée à l'époque de Jérémie, dans le chapitre 28, on dit que Jérémie... Hein. Voilà. Ou bien Deutéronome, bien sûr, et une façon concrète aussi dans le... disons que quand, avec Jérémie, avec Hanania, il y a un prophète, etc., chacun dit, non, vous inquiétez pas, les Babyloniens ne vont pas nous attaquer, et Jérémie, non, il dit, peut-être, si tu as reçu cette prophétie que je n'ai pas reçue, ok. Et puis il sort, et puis Dieu lui dit, non, va dire à Hanania que, non, je vais envoyer les Babyloniens, parce que vous êtes infidèles, et donc Nabucodonosor viendra. Alors il va retrouver Hanania, et lui dit, et tu vas mourir avant la fin de l'année. Voilà, comme ça, il saura que c'est moi qui parle au nom de l'Éternel. Voilà, et puis Hanania, elle ne passe pas l'année.
Bessorara.
Oui, Bessorara, il lui annonçait la mauvaise.
C'est
voilà.
La mauvaise.
Alors, c'est très difficile, mais ce qui est certain, c'est pour annoncer l'avenir, c'est peut-être difficile. On ne sait pas si oui, non. Par contre, il y a des invariants du prophétisme. Et les invariants du prophétisme, c'est l'éthique des prophètes. C'est-à-dire que si on est du côté du bien, si on est du côté de la vie, du côté de l'amour, si je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, tu choisiras la vie et la bénédiction, ça c'est le signe qu'on parle au nom de Dieu. D'accord ? Donc c'est-à-dire, moi, vous savez, le premier défenseur de Dreyfus, c'était Bernard Lazare. Bernard Lazare était d'origine juive, même s'il était un juif assimilé, un israélite, comme on disait, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Il avait un très bon ami, catholique engagé, mais un ami d'Israël, Paul Valéry. Et Paul Valéry, pour l'éloge funeste de Bernard Lazare, qui était le premier défenseur de Dreyfus, il avait commencé à regarder, il dit « Non, mais il y a des vices de forme, etc. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible, il est pas coupable. » Et le jour de... pour son oraison... il a dit un athée ruisselant de Dieu. Et je trouvais cette formule très belle. Un athée ruisselant de Dieu. C'est-à-dire que Bernard Lazare dit je ne crois pas en Dieu, mais au fond, la manière dont il a agi, c'est-à-dire pour la justice, pour la vérité, ben, il était beaucoup plus proche des prophètes d'Israël ou de Jésus, on pourrait dire, que d'autres qui se revendiquent de Dieu, mais qui, au nom de Dieu, prennent le pouvoir pour faire le contraire d'une éthique exigeante. Donc voilà comment je peux répondre, j'espère que c'est assez clair. C'est-à-dire, du point de vue du judaïsme, toute réalité est traduite, la parole de Dieu qui donne vie en permanence, et même les objets inertes, ils existent, il y a plutôt qu'il n'y a pas. Donc il y a la réponse pourquoi il y a plutôt qu'il n'y a pas, la grande question philosophique que vous avez peut-être étudiée, ben, du point de vue de la Bible, enfin de la tradition de la révélation, c'est parce que c'est la bénédiction de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui donne à autre, voilà, qui donne... à autre que lui-même. Quant à distinguer, bon, c'est pas toujours évident. Est-ce que quelqu'un est inspiré, n'est pas inspiré? Est-ce qu'il a l'esprit de Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu? Des fois, ça peut paraître évident, des fois non. Mais le critère, disons, restera quand même la cohérence avec l'éthique des prophètes.
Merci beaucoup. Bon. Je me rappelle qu'André Frossard était venu nous faire une conférence.
André Frossard, oui.
Eux, ils n'étaient pas nés. Hein. J'étais à leur place. J'étais étudiant. Et alors, il avait parlé du judaïsme, du peuple d'Israël. Et puis, alors, il avait dit, le juif, c'est celui qui porte Dieu en filigrane.
Oui.
Qu'il le veuille ou non. À la limite, c'est presque plus éloquent, d'ailleurs, s'il est athée. Parce que le juif, c'est celui qui porte Dieu en filigrane. Je me souviens de cette formule, hein, Bernard Lazare, un athée ruisselant de Dieu.
C'est beau comme formule, moi.
Il portait Dieu.
Oui, en filigrane, oui. Je crois que c'est... Frossard, c'est lui qui dit que dans son village, il y avait une synagogue, mais il n'y avait pas d'église.
C'est le seul village de France
où il y a une synagogue, il n'y a pas d'église.
Et c'est très étrange qu'il y ait une synagogue, parce qu'en vrai, il y en a toujours deux. Celle où on va et celle où je ne vais pas.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est la blague du juif sur une île déserte qui construit deux synagogues.
Voilà.
Et pourquoi tu en construis ? Il y a celle où je vais, puis celle où je ne vais jamais.
Bon, alors, je vais terminer avec
une blague,
ça ouvre l'appétit.
Allez, voilà.
C'est un juif qui arrive pour la première fois à Jérusalem, et puis, il veut visiter Jérusalem, il trouve un chauffeur, il dit, vous parlez français ? Il dit, oui, je parle un peu français. Il dit, voilà, je voudrais aller, vous savez... au mur où tout le monde prie et se lamente du matin jusqu'au soir. Il dit, ah oui, je connais. Et il l'amène à l'hôtel des impôts. Voilà.
Le mur de lamentation, c'est l'expression chrétienne. Hein. Dans le judaïsme, on parle du kotel.
Le mur occidental.
C'est le mur occidental, le kotel à Maharavi, c'est enfin, le mur. Voilà. Et donc, il faut mieux éviter l'expression de lamentation quand vous parlez avec des juifs. C'est